Enfin. OK, merci, Dan. On va maintenant plus sérieusement parler au professeur Michel Dagenais, professeur de génie à l'École polytechnique de Montréal. Monsieur Dagenais, bonjour.
Bonjour.
On vous parle parce qu'aujourd'hui, il y a un article qui a attiré mon attention dans la presse. Plus, on jette, non, on répare. Et c'est sur l'obsolescence programmée. On en a parlé beaucoup ici à l'émission. C'est-à-dire que nos appareils, nos électros, nos TV, là, notre sécheuse, notre laveuse, qui à l'époque durait 50 ans, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils durent à peine le temps qu'on a une garantie. Puis le lendemain de la garantie, ça brise.
Terminé.
Puis on va voir le réparateur, puis il nous dit que ça va coûter plus cher vous réparer ça que si vous venez d'acheter un neuf. Fait qu'on pogne ça, puis on s'axe au vidange, et c'est ainsi de suite à toutes les quelques années qu'on est obligé de renouveler nos appareils. Et là, ils nous disent que ça pourrait, il pourrait y avoir un changement parce qu'en Europe, les fabricants d'électroménagers vont être tenus par une loi de produire des appareils plus durables. Est-ce que vous y croyez?
J'y crois dans la mesure où faut surveiller, puis faut mettre de la pression. Donc, comme consommateur, déjà, les gens étaient très déçus de ça, là, les appareils qui durent pas aussi longtemps.
Oui.
Mais en plus, en termes environnementaux aussi, les gens sont de plus en plus conscients de dire ça n'a aucun bon sens de jeter comme ça des appareils qui pourraient être encore bons alors qu'il y a une petite chose à réparer. Il y a une loi qui a passé effectivement en Europe, mais c'est à la pièce, hein, ça couvre pas encore tous les électroménagers. Il y avait un vote sur les laveuses, un vote sur les lave-vaisselle, un vote, c'est comme un morceau à la fois. Mais grosso modo, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que les appareils soient réparables. Donc, pas d'affaires collées, tout ça, ou qui demandent des outils incroyables pour les désassembler, pour les réparer. Il faut que l'information pour pouvoir les réparer puis les pièces soient disponibles aussi. Le seul pépin qu'il y a eu là, entre le moment où la loi a été déposée puis le moment où tous les lobbies ont fait leur pression, les lobbies des manufacturiers ont fait des pressions pour réduire la loi, puis le moment où elle a été acceptée, c'est que plutôt que d'avoir les pièces, puis les manuels, puis les informations qui sont disponibles pour tout le monde, c'est disponible seulement pour les réparateurs professionnels choisis par les compagnies.
Oups.
Donc, ils gardent encore un certain monopole, mais au moins les appareils vont être facilement démontables et réparables.
Là, j'essaie de comprendre. Là. Vous êtes ingénieur. Là. Expliquez-moi ça. Là. Il est possible de construire un appareil, un électroménager, un frigidaire ou un poêle, puis décider que dans 5 ans et 3 jours, il va péter. C'est tout ça, grosso modo. Là, parce que est-ce qu'il programme quelque chose pour que la durée de vie soit plus courte? C'est faisable, ça?
Pour tout ce qui demande des mises à jour logicielles, ça, c'est assez facile. À un moment donné, une compagnie, que ce soit Apple ou une autre, va décider qu'ils mettent plus de mises à jour. Puis là, s'il n'y a plus de mises à jour, ben là, les gens, ça peut plus fonctionner sur certains sites web, ça peut plus, il y a des trous de sécurité. Donc, arrêter de donner des mises à jour pour les appareils électroniques, c'est une bonne façon de dire, c'est plus bon. Pour les autres appareils, normalement, c'est pas comme ça, c'est pas supposé. Mais ils peuvent ne pas se forcer pour que ça dure longtemps, puis au moindre pépin, que ce ne soit pas facilement réparable.
C'est ça, parce que j'ai lu ça dans l'article. Là. Ils disent qu'au lieu, par exemple, de visser les pièces, ou au lieu, ils les collent, ou il y a toutes sortes de... Puis on peut pas défaire ou changer une pièce sans être obligé de démolir l'appareil.
Oui, des fois, c'est juste parce que c'est un tout petit peu moins cher à faire. Ils sauvent une fraction de sous à faire ça comme ça, puis ils vont le faire comme ça en disant, de toute façon, on ne tient pas à ce que les gens les réparent. D'autres fois, on a vu des manufacturiers faire exprès pour mettre des vis particulières pour lesquelles il n'y a pas d'outils disponibles librement pour les défaire. Là, les vis pantalobes qui ont été faites par Apple, notamment. Ça, c'était vraiment... Ils voulaient absolument pas que les gens puissent ouvrir puis réparer.
Fait que là, t'arrives chez le réparateur puis il dit, gars, je voudrais bien t'aider, mais même si je voulais, j'ai même pas les outils, je suis même pas capable de réparer ton appareil.
C'est ça.
Et vous dites aussi que le Canada pourrait pas prendre l'initiative d'une loi anti-obsolescence qu'il va falloir attendre après l'Europe et particulièrement les États-Unis. Pourquoi?
Ben, on pourrait pas. C'est un peu difficile. Parce que ce qui se passe, c'est que si tout d'un coup, c'est seulement pour venir au Canada ou au Québec que les manufacturiers ont besoin de faire leurs appareils différemment, certaines compagnies pourraient dire, bon, on va pas faire le changement juste pour eux, on va arrêter de vendre nos produits dans cette province-là. Mais dès qu'il y a une masse critique, là, les compagnies pourront pas le faire autrement. Il y a eu certaines normes environnementales pour les autos qui sont apparues en Californie. Puis la Californie, ils étaient assez gros pour forcer finalement les compagnies à en tenir compte. Alors, pour le Canada, disons que ce serait plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce serait plus difficile s'il n'y a pas un mouvement plus large.
Professeur Dagenais, comment on fait pour faire la différence entre un article qui est simplement de moins bonne qualité puis un autre qui a été stratégiquement conçu pour devenir désuet dans une période limite, là?
Il y a des sites comme iFixit et d'autres qui donnent des notes de réparabilité. Donc déjà, c'est une bonne façon. Autrement, déjà, regardez, si on voit tout de suite des vis, comment démonter, tout ça, ça donne une idée. Il y a certaines compagnies aussi pour lesquelles on sait que les pièces sont très facilement disponibles, alors que pour d'autres, c'est pas le cas. Il y a différentes façons comme ça. Mais il y a des sites vraiment là, qui eux-mêmes donnent des notes sur la plupart des appareils électroniques, par exemple.
Fait qu'on sait combien de temps ça peut durer. Là, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui disent, ben beau là, de dire qu'on va avoir des appareils qui vont durer plus longtemps, mais ils s'inquiètent que ça va coûter beaucoup plus cher. Parce qu'à l'époque où nos frigos duraient 50, 60 ans, si on compare en dollars d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus cher que ce qu'on paye. Est-ce que ça voudrait dire qu'effectivement, il faut s'attendre à payer plus cher nos électroménagers si des lois comme celle-là sont adoptées?
Là, il y a deux phénomènes complètement différents. Les frigos d'il y a 50 ans, c'était pas les mêmes fabrications à la chaîne, la technologie n'était pas aussi évoluée pour faire les choses de façon automatique et tout ça. Donc, les coûts de production ont beaucoup, beaucoup baissé. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est sûr que mettre une goutte de colle versus mettre une vis, c'est un petit peu moins cher, mais la différence n'est pas si grande que ça. Là. Ça va être, à mon avis, puis évidemment, ça faut voir appareil par appareil, là, mais je pense pas que la différence soit vraiment très perceptible.
OK, fait que ce soit quand même pas une grosse différence. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Professeur Dagenais, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. C'était Michel Dagenais, professeur de génie à l'École polytechnique de Montréal.
Tu sais que dans vie, il y a un domaine, entre autres, il y en a quelques-uns, mais c'est surprenant quand on y pense, mais il y a un domaine où les prix baissent, contrairement à ce qu'on pense que tout augmente.
Les billets d'avion.
Non, oui, un petit peu, tu as raison, mais l'électronique.
Oui, ça diminue.
Écoute, chez Maison Adam, qui est un client qui annonce ici, j'ai vu dans le journal en fin de semaine, une 65 pouces 4K en bas de 1000 pièces.
Aïe aïe.
Ouais. Puis, je veux dire... Il doit en avoir ailleurs, là. C'est pas...
Mais c'est juste de dire que les technologies, hey, ça baisse tout le temps. Mais ça, c'est vrai pour les ordinateurs.
70
pouces
aussi, j'ai vu. Je m'agasinais ça, en fait,
ça a
passé, oui.
En bas de 1000?
Oh oui.
Mais écoute, je me suis fait encore
fourrer. Non,
mais c'est parce que j'ai payé comme 1400$ une 55 pouces.
Non, mais je dirais pas ça. Moi, je te dis que 70 pouces en bas de 1000$, là, je voyais au travers, là.
Ça n'a pas la technologie que t'as aussi, Eric, puis de la marque.
Oui, c'est ça. Il y a les OLED, mais c'est très cher.
Je me suis fait vendre ça par un vendeur qui me disait de regarder par en arrière. Ça me rassure pas, là.
Ah oui, c'est ça.
Mais tu sais, il y a des marques cheap aussi qui coûtent pas trop cher. Moi, chez nous, j'ai une marque cheap, 55 pouces. J'ai payé ça 500$ sur Target dans le temps. Puis honnêtement,
c'est moins cher que moi.
Et elle fait le boulot.
Mais ton
c'est une Panasonic.
Ton vendeur, est-ce qu'il disait que ça, les hommes des cavernes, ils regardaient la TV avec ça?
Non, il m'a.
Ça peut être un bon truc.
Écoute, sérieusement, le test qu'il m'a fait faire, ça m'a pas rassuré, puis je me sens niaiseux, j'aurais dû sortir du magasin pas ailleurs. C'est que je me suis mis, il m'a dit, là, regarde, là, Eric, là, il y a une différence entre payer 500, 1000, 2000, puis 5000 piastres une TV, mais okay. Tu peux tout payer ça pour la même TV.
Oui.
Puis il dit, gars, viens avec moi. Puis il m'a amené, il y avait comme, je sais pas, il y a un mur de TV, tu sais comment est-ce que c'est, des magasins de TV. Puis il m'a amené complètement sur le côté, quasiment en arrière de la TV, là, j'étais vraiment... Il dit, laquelle tu vois, là, qui beau, quelle que tu vois quelque chose. Il n'y avait rien qu'une que je voyais qui sortait du lot.
Oui.
Oh, mais tu vois-tu? Il dit, c'est ça.
Ouais.
Oui, mais je dis, combien de fois dans l'année je m'installe en arrière de la TV dans le mur pour la regarder?
T'as raison.
Pourquoi j'ai acheté la TV basée là-dessus?
Je sais pas. Il y a plein de questions qu'il faut que tu te poses.
OK, on va en pause. On va en entendre parler, là.
Le retour d'Éric Duhem.